la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
For the local.
Vive mon pain,
vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Lyon par exemple, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, autres formes de création curieuse. Et création curieuse, il va en être question aujourd'hui avec l'ARFI. On va parler de l'ARFI. Bonjour Olivier Bost, qui va nous présenter l'ARFI et puis nous parler des dernières créations. Alors, on vient d'écouter un morceau qui m'est cher, vraiment. C'est un disque que j'écoutais il y a 30 ans de ça. Et très heureux de l'avoir réécouté à l'occasion de la préparation de cette émission. Un extraordinaire morceau, Oui ou non, de La Marmite Infernale, extrait du disque Gloire à nos héros de 1990, je crois. Et voilà, Olivier, on va pas parler des choses anciennes, hein, on va parler des projets nouveaux, mais quand même, moi, il me tenait à cœur de diffuser ce morceau-là. Avant tout, peux-tu te présenter, de dire de quel instrument tu joues et aussi comment tu as appris à en jouer?
Alors, comment me présenter? Je suis de quel instrument je joue? Je vais jouer du trombone à la coulisse, pour les concerts de demain. Je suis aussi guitariste. Ouais. Au départ, moi, je suis un musicien, je vais dire autodidacte. Je jouais de la guitare chez moi. Après, j'ai monté des petits groupes où on faisait plutôt du rock. Je me suis pris un petit peu au jeu, puis après avoir m'être acquitté de mes études, de mon baccalauréat, et j'ai décidé de vraiment m'aventurer dans cette vie de musicien. Mmh. Et là, j'ai un petit peu plus, je dirais, travaillé pour pouvoir avancer et développer mes projets. Voilà.
Et oui. Mais alors, pas d'études de conservatoire, d'école de jazz, par exemple?
Non. J'ai pris des cours avec, effectivement, des musiciens de jazz qui étaient confirmés, on va dire, à l'époque, dont, par exemple, Michel Pérez, un guitariste qui habitait à Lyon, mais je crois maintenant qui habite à Paris. Et voilà, qui était un... super guitariste de jazz, plutôt traditionnel, on va dire, mais ça n'enlevait rien à la beauté de sa musique. J'aimais beaucoup ce guitariste et j'ai eu la chance d'apprendre un certain nombre de choses avec lui, oui.
Mais alors, est-ce que tu as des noms de groupes dans lesquels tu as joué, de formations ?
Avant, on va dire...
avant l'ARFI.
Avant l'ARFI.
Oui.
Alors, deux choses qui seraient significatives, je ne suis pas sûr. Enfin, j'ai fait pendant un moment un groupe de rock qui s'appelait Nomad et Skaterra. Avec lequel je peux dire j'ai commencé à vivre de la musique. C'est un groupe où on jouait beaucoup sur des scènes plutôt rock. Et voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier, oui.
Ouais.
D'une certaine façon.
Et là, ce n'était pas une question du tout prévue, mais vivre de la musique, c'est pourquoi en fait ?
Ah, bah, c'était baigner pleinement dans. Et pouvoir, être. Totalement disponible à la pratique et à de cet art, de cette expression artistique qu'est la musique, quoi.
De la création.
Je me rendais disponible totalement à ça, quoi.
Ouais. Et alors, du coup, quand et comment es-tu rentré dans l'ARFI ? Puisque on va parler de ça, hein.
Oui, alors effectivement, je ne suis pas loin de là un des fondateurs de ce collectif, mais au contraire, un jeune musicien qui les a donc découverts, on va dire, tout début des années 90. Ouais. Et à Lyon, en concert, j'ai vu les premières formations de l'ARFI, c'était quoi, Ishkri, le workshop de Lyon, des ciné-concerts comme Tarzan, enfin des choses comme ça là, qui étaient assez... pour moi, c'est était plutôt à découvrir des musiques comme le jazz, puisque je venais plutôt de musique, on va dire, populaire, genre rock, chanson. Ouais. Je me prenais un peu au sérieux en faisant du jazz, mais là, c'était encore autre chose, quoi. Il y avait un univers assez inédit, inouï pour moi, qui m'a fasciné assez vite. Et ouais. Puis, en fait, j'étais comme beaucoup spectateur et un musicien qui suivait ces gens-là. Puis, je me suis retrouvé par le biais d'un centre culturel, dans la région lyonnaise, ouais. À collaborer avec eux sur un projet qui était plutôt autour de ce centre culturel, d'un territoire avec ses habitants, des orchestres amateurs. Et j'ai commencé à sympathiser avec certains musiciens. Mmh. Et il se trouve que en sympathisant, on s'est proposé de se revoir, de faire des choses, d'expérimenter des choses ensemble. Et de fil en aiguille, on a commencé à me proposer à participer à d'autres projets. Et puis... à faire vraiment partie d'un orchestre, d'un spectacle, etc. Et du coup, l'évidence se fait au fur et à mesure du temps. Ouais. J'ai pu rejoindre, il disait, on cooptait les musiciens comme ça. Et enfin, on rejoignait l'histoire, l'aventure du collectif.
Eh bien alors, il conviendrait maintenant, au point où on en est, de présenter ce qu'est l'ARFI. Association à la recherche d'un folklore imaginaire.
Ouais. Alors, l'ARFI, donc, c'est un collectif de musiciens. Aujourd'hui, on doit être, un peu plus de 15, 16 ou 17 musiciens, je ne sais plus. Mmh. Et à l'époque, c'était à peu près la même chose. Ça a toujours été à peu près le même nombre de musiciens. Et ça a été, donc, au départ, ça a été créé en 1977. Le regroupement de deux formations, le Marvelous Band et le Workshop de Lyon, et qui ont, par leur regroupement aussi, en même temps, je crois, à peu près au même moment, inventé la grosse formule, on va dire, le grand orchestre de l'ARFI, qui s'appelle la Marmite Infernale.
Oui.
Et du coup, ça a été le départ d'une aventure collective. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà des deux groupes fondateurs, c'était effectivement d'imaginer, de réfléchir à une musique qui allait s'élaborer avec les sensibilités de chacun, les univers de chacun. Alors ça s'est beaucoup ouvert aussi à plein d'autres choses, notamment à tout ce qui était spectacle pour enfants. Il y a eu évidemment beaucoup de formes de spectacles qui étaient inédites à l'époque, donc jouées sur des films souvent muets, et donc d'en réinventer la musique et l'accompagnement en fait des images, mais ça allait sûrement au-delà de l'accompagnement, hein, ça donnait même un sens fort parfois à ces vieux films, un sens nouveau.
On va en reparler, si tu veux bien, mais il y a quand même, dans l'intitulé du collectif, quelque chose qui moi, me parle, c'est le folklore imaginaire. Est-ce que tu peux... Parce qu'en fait, même actuellement, hein, quand tu vas sur votre très, très, très excellent site, il est quand même toujours un petit peu fait référence à ce folklore imaginaire. Est-ce que ça te parle? Qu'as-tu à dire là-dessus?
Je ne sais pas si je vais dire ce que d'autres, ou même ceux qui ont dû trouver le mot, pourraient dire, mais moi, ça a toujours été un nom qui m'a fait rêver, quoi. Enfin, je trouve ça très beau, c'est très bien trouvé, et je pense que ça représente assez bien le projet, au départ, où on ne s'interdit rien, où les musiciens... cherche pas de légitimité particulière à jouer tel genre de musique ou tel autre genre de musique, mais s'autorise tous les travers, toutes les pratiques, toutes les rencontres possibles, inimaginables, expérimente pour inventer des musiques, des formes de spectacle, etc.
Quoi. Et alors, tu parlais du workshop de Lyon, et je crois que c'est encore en activité, non?
Non, malheureusement, c'est plus en activité. Ça s'est éteint progressivement, on va dire, puisqu'il y a plusieurs musiciens qui nous ont quittés successivement. D'abord Maurice Merle, qui est parti déjà depuis un certain nombre d'années, et puis qui avait été... y avait eu c'est pas le cas, c'est pas un remplaçant, mais je crois que les autres musiciens avaient besoin de continuer cette aventure même qui était forte, et donc ils avaient invité Jean Ossaner et qui nous a quitté lui aussi en septembre 2017. Voilà, donc je crois qu'ils étaient, c'est aussi des musiciens qui ont une carrière, parce que si c'est l'aventure de ce collectif a commencé en 1977, je crois que le workshop de Lyon, il existait déjà 10 ans auparavant. Ils ont fêté leur mi-centenaire, comme ils ont dit, il y a déjà quelques temps.
Leurs 50 ans en 2017. Hein.
Ouais,
oui, c'est ça. 1967. Ah oui, ça me parle cette année. Ouais. Mais alors, peut-être parlons du fait que ce soit... quand même un collectif, l'ARFI, à l'époque, c'était pas si fréquent de s'organiser en collectif. Maintenant, il y a des contingences, on va dire, économiques qui font que beaucoup de musiciens s'organisent en collectif. Mais à l'époque, c'était pas l'idée de la mutualisation, je ne sais plus comment on dit, n'était pas si fréquente que ça. Et elle avait peut-être une connotation politique, collectif, un collectif tel que l'ARFI, peut-être il y avait une idée de collectivisme derrière, je ne sais pas, est-ce que tu peux...
Alors, moi je ne sais pas non plus à l'époque comment ils en parlaient précisément, mais je crois que, moi c'est ce qui était très important pour moi en tout cas dans cette aventure, c'est ce qui est politique pour moi, c'est évidemment ce projet de collectif, c'est-à-dire ça construit un lieu où il y a un rapport égalitaire entre nous. Alors égalitaire, ça ne veut pas dire, oui évidemment, chacun a la parole, chacun, il n'y a pas de chef, etc. On dit souvent ça, mais je crois que ce qui est vraiment important de préciser, c'est que c'est la reconnaissance des différences de chacun. C'est-à-dire que on parle des différences, on parle aussi des inégalités qu'il peut y avoir entre nous. C'est-à-dire, c'est ces inégalités-là et leur reconnaissance qui fait un rapport égalitaire entre nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, on a des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, des plutôt intellos, des plutôt plus pragmatiques, etc. Enfin, je veux dire, toutes ces différences, on est en permanence à les prendre en compte comme un débat, une réflexion. Et je pense que l'idée collective, elle est là, elle est essentiellement là. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, faire collectif, créer une association, c'est souvent un outil de travail. C'est-à-dire, ça permet de structurer administrativement. Avoir un moyen de communiquer, parce qu'on est plusieurs, on mutualise effectivement les moyens, et ça nous permet de faire valoir son travail, ce qui est... Enfin, je veux dire, j'ai pas de reproche à faire à ça, je veux dire, ça se fait comme ça aujourd'hui, mais je pense qu'on oublie souvent, et c'est la différence, je pense, avec une aventure comme celle de l'ARFI, c'est qu'il y avait vraiment un souci de copartager un espace de réflexion sur la musique, sur la création, avec des gens qui venaient d'univers très différents, de milieux sociaux très différents, et qui avaient des préoccupations, des réalités différentes parfois. Et c'était ça qui était éminemment politique. Je pense qu'aujourd'hui, on fait tellement la guerre à tout ce qui peut amener à ce qui est collectif, solidaire, etc., que ça reste pour moi un propos fort. Pour ça, en tout cas.
Super, merci beaucoup. Mais alors, justement, cet engagement-là, moi j'ai bien compris, même à l'époque, tu sais, il y a 30 ans, je comprenais ça de ces mecs-là. Et j'écoutais leur musique, hein, je ne lisais pas leur texte, hein, j'écoutais leur musique. Qu'en est-il de cet engagement aujourd'hui de l'ARFI ? Parce que tu vois bien qu'on a un petit problème actuellement avec le gouvernement, comme tant d'autres, mais si tu veux, là, actuellement, il y a quand même un sérieux problème. Comment vous situez avec, notamment, je te pose la question, parce qu'il y a justement ces musiciens qui broulinguent depuis 30 ans, quoi, qui seraient peut-être fondés à en avoir marre un peu, à vouloir juste jouer de la musique et puis, tu vois ce que je veux dire ?
Oui, on entend un peu tout ça, je veux dire, nous, dans ce collectif, des qui rappellent qu'ils sont là pour la musique et que c'est ce qui est important pour eux. D'autres, je veux dire, il y a des... Comme je disais juste avant, il y a des réalités différentes. Effectivement, un musicien aujourd'hui qui est à la retraite et qui a une très grande partie de sa carrière qui est derrière lui, et un jeune musicien ou musicienne qui arrive aujourd'hui au sein de l'ARFI, ils ne se projettent pas du tout de la même façon.
Ouais.
Mais je veux dire, c'est bien cette richesse-là, si on veut bien la voir comme une richesse, parce que politiquement, par exemple, aujourd'hui, ce à quoi on a à faire face, c'est cette logique qui voudrait dire que l'ARFI, il faudrait que ça soit jeune, donc qu'il y ait moins de choses anciennes, déjà vues, ringardes. C'est-à-dire, on veut éliminer tout ça et laisser paraître, quelque chose qui serait consensuel avec des femmes autant que d'hommes, avec, mais une vision qui moderne, alors qui est quand même un terme équivoque. Enfin, je veux dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je crois que, justement, ce qui me paraît, moi, le plus juste aujourd'hui quand on fait collectif, c'est que, justement, il y ait toutes ces différentes personnes qui en sont à des réalités différentes, des gens qui sont peut-être en fin de carrière, d'autres en début, certains qui sont des femmes, des jeunes femmes, ou des hommes plus mûrs, ou il pourrait y avoir des tas de rapports, en fait, à la création aujourd'hui, qui font que, justement, c'est la richesse de ces différences qui font collectif, quoi.
Ah oui, bien sûr. Oui, parce que moi, ce que je comprends de l'histoire, c'est qu'on veut nous mettre... la modernité dont tu parles, ça n'a rien de moderne, c'est toujours le même truc, le vieux truc du capitalisme qui est franchement archaïque, pour moi, hein, c'est...
Oui. Puis dans ce qui est la question de la modernité, c'est aussi une forme de hiérarchisation. systématique de ce qui se fait, c'est-à-dire de, une sorte de légitimité ou de reconnaissance d'un côté du bon goût, de ce qui... de ce qui est pertinent, etc. Et puis d'un autre côté, de ce qui est vieux, dépassé, désuet. Et je crois que en fait, il y a quelque chose là-dedans qu'on veut pas avoir, c'est que c'est la temporalité, mais qui est pas la même pour tous. Demain, on va jouer dans un théâtre. Il y aura certainement des gens qui vont adorer, d'autres qui vont rester un peu dubitatifs, surpris parce qu'ils connaissent pas du tout ces musiques. On va faire essentiellement de la musique improvisée. Et puis d'autres qui vont être plutôt en colère, pas contents, déçus. Et en fait, je ne sais pas qui pourrait dire que pour raison de modernité, il a raison d'avoir son propre sentiment, quoi, des choses. Je crois que c'est, les choses sont vivantes ou ne le sont pas, quoi. Et nous, ce qu'on fait, et je pense que le collectif nous l'oblige un peu, c'est justement de co-partager avec toutes nos différences et d'arriver à inventer une musique ensemble et que ça soit en tout cas pris comme tel et sans jugement particulier. Enfin, on peut être, comme je disais, en colère, détester, s'ennuyer ou adorer ou être surpris de toutes les façons possibles. Mais c'est ça faire de la, enfin, pour moi, c'est ça faire de la musique et me confronter à un public, quoi.
On va y revenir. Je propose qu'on écoute un peu de musique, puisque nous sommes une émission non pas musicale, mais qui parle de musique. Et je propose qu'on écoute La Marmite Infernale, un extrait de Les Hommes Maintenant.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres avec Olivier Bost, tromboniste, guitariste de La Marmite Infernale. Et on parle de l'ARFI aujourd'hui. Et alors, oui, je dis La Marmite Infernale parce que c'est de ça qu'on va parler, mais tu n'es pas uniquement musicien dans La Marmite Infernale. C'est le grand orchestre de l'ARFI, La Marmite. Est-ce que tu peux nous parler de cette création dont on vient d'entendre un extrait, Les Hommes Maintenant, à laquelle tu as participé?
Oui. Alors, c'était un spectacle dont l'origine, c'est la suite d'un ancien spectacle qui s'appelait Les Hommes, ouais. Qui avait donc été une proposition, une collaboration avec les arts dramatiques, qui est donc une compagnie de théâtre dont le metteur en scène est Jean-Paul Delors. Et donc, on a eu envie, 20 ans plus tard, avec ceux qui restaient, puis les nouveaux arrivés, et moins ceux qui n'étaient plus là, évidemment, de faire Les Hommes Maintenant, c'est-à-dire Les Hommes 20 ans plus tard. Et, d'abord parce que c'était un souvenir fort, je pense, de ceux qui avaient fait le premier spectacle et qui avaient... une envie peut-être de re-réfléchir à dans cette collaboration avec Jean-Paul notamment, le metteur en scène, et puis pour les nouveaux de réinventer quelque chose au souvenir d'eux, quoi. Après, c'est évidemment, ça c'était plus du tout la même chose, on a ni Jean-Paul Delors n'était plus le même metteur en scène et nous plus les mêmes musiciens, et donc ça donnait un tout nouveau spectacle. Alors ce spectacle, en fait, c'est pas vraiment un spectacle de théâtre, c'est plutôt mais c'est quand même la mise en scène de notre musique, on va dire. Mmh. Et Jean-Paul Delors, il a ça, je crois, qui fait que il a toujours bien accroché avec les musiciens de l'ARFI, c'est que il comprend bien notre histoire, il comprend bien un peu les enjeux de comment on fabrique la musique entre nous, etc. Et donc, il raconte un petit peu ça, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer de manière, on peut dire, parfois anecdotique, mais en fait, ça parle de choses importantes, je trouve, à chaque fois. Et tout ça avec des nouvelles musiques, qui étaient celles au moment qu'on a pu créer, quoi.
Ouais, alors, justement, tu parles de ça, et je pense que... J'aimerais bien savoir, ça m'intéresse de savoir comment est composée la musique dans l'ARFI, dans La Marmite Infernale, dans ce grand ensemble de l'ARFI qui est la Marmite Infernale. Tu parles de collectivisme, de collectif. Est-ce que les morceaux sont composés collectivement ou pris en charge, comme on pourrait dire, je sais pas comment, par un musicien, ou comment ça se passe?
En fait, c'est... Et ça se place de plein de façons différentes. Mais du coup, en fait, il peut y avoir des musiciens qui vont arriver avec... qui auront écrit toutes les parties de chacun, de manière très précise, et il n'y aura plus qu'à jouer et interpréter, on va dire, d'une certaine façon. D'autres qui vont arriver avec quelques idées, quelques bribes d'idées, ou des choses un peu plus schématiques, écrites aussi. Et là, dans ce cas-là, on va, en travaillant chacun, collectivement donner notre avis et se dire que ce serait bien peut-être plutôt comme ça ou comme ci, et décider progressivement, un peu comme un groupe de rock, je veux dire, de se dire ça fonctionne, et quand on est convaincu, on arrête les choses, quoi. Puis il y a aussi des propositions qui sont sans support écrit, qui sont juste sur des idées d'improvisation, mais parce qu'il y en a certains qui ne savent pas écrire la musique, mais qui ont quand même beaucoup de choses à proposer. Et à partir, je veux dire, de cogites qu'ils ont en proposant, soit sur une idée abstraite, avec des mots. Et puis il y en a d'autres qui arrivent avec du matériel, des objets, etc. Et qui vont proposer à partir de ces sonorités, de ces matières sonores, des choses à faire. Ouais. Je me souviens par exemple d'Alfred qui, lui, travaille beaucoup avec des objets de récupération et il était venu avec des grands plateaux métalliques et qui faisaient qui rentraient en résonance, donc des sortes de grincements sur le sol. Et il fallait un peu maîtriser le geste pour que les grincements en fait bougent. Et donc il y avait une sorte d'harmonie, de superposition en fait des différentes sonorités, ces matières un peu bruitistes. Et puis, mais il avait quand même l'idée d'un morceau aussi qu'il avait entendu par ailleurs d'une fanfare et qu'il souhaitait qu'on reprenne un peu cette musique d'une certaine façon en superposition de ces matières bruitées avec les plateaux. Donc là, on a travaillé avec lui, certains ont pu un peu repiquer et arranger cette musique, et puis après, on a construit ce morceau avec lui. Donc voilà, ça peut se faire en fait de plein de façons, mais c'est très expérimental, parce que je crois que même quand quelqu'un arrive avec une partition toute faite, c'est souvent il y a des choses qui bougent, on s'arrange de choses, parce qu'il y a des musiciens parfois qui vont s'arranger parce qu'ils ne sauront pas faire certaines choses. Et puis aussi parce que peut-être ils ont une meilleure idée que ce qui a été écrit parfois à certains passages, je ne sais pas. Rien n'est interdit et on peut partir de... On peut avoir plein de points de départ, quoi.
Ça c'est super. Rien n'est interdit. Tu parlais du fabuleux musicien percussionniste Alfred Spirelli. Depuis 10 ans, je crois. Hein, je sais pas si on a précisé que ça fait 10 ans que tu es dans le collectif, à peu près. As-tu constaté des difficultés qui seraient accrues pour un grand ensemble tel que la Marmite Infernale pour se produire? Je parle d'économie.
Ah oui, ça change.
Ah oui.
Depuis pas mal d'années, il y a quand même... Mais bon, ça, c'est... Je crois que l'ARFI n'est pas un cas particulier là-dedans. On a beaucoup moins de... Il y a beaucoup de festivals qui ont disparu, qui étaient des festivals qui soutenaient ces musiques-là en particulier, ou cette façon de... ces démarches, quoi. Il y a des lieux aussi qui ont disparu. Mais ce que je pense, c'est qu'il reste beaucoup d'endroits, beaucoup d'espace pour faire ces musiques. Ce qu'il y a, c'est que c'est passé un petit peu du côté de l'underground, quoi. C'est qu'il y a moins d'argent, il y a moins de moyens, en fait, pour produire des tournées et rendre viable économiquement la diffusion de ces musiques, quoi.
Oui. Bon, parlons de diffusion, parce que demain soir, c'est pour ça qu'on vous invite un peu aujourd'hui. Moi, j'écoute l'ARFI depuis 30 ans, mais quand même, là, l'occasion, c'est quand même que demain, il y a un concert. Au Théâtre Berthelot de Montreuil, il y aura une soirée avec le collectif Coax, une soirée nommée Coarfix, je crois. Oui. Rencontre entre les collectifs ARFI et Coax. Est-ce que tu peux nous en parler et aussi nous dire comment est née cette idée un peu bizarre?
Non, je crois que c'est pas une idée bizarre, c'est assez cohérent parce que à l'ARFI, c'est un collectif de musiciens, mais je veux dire, ça fonctionne pas à circuit fermé. On invite souvent d'autres artistes. Aux éclats d'ARFI, au mois de novembre dernier, il y avait un plasticien, il y a aussi d'autres musiciens qui nous touchent par ailleurs et qui ne font pas partie du collectif, mais qu'on invite à nous rejoindre ponctuellement parce qu'il y a une forme à laquelle on pense que ce serait super qu'ils soient avec nous, parce que sur tel spectacle, ils apporteront une singularité qui va forcément nourrir notre propos. Donc on est habitué quand même, nous, à l'ARFI, à collaborer quoi, avec des danseurs, des plasticiens, mais... Oui. Et d'autres musiciens. Et là, c'était aussi l'envie, parce que un beaucoup plus jeune collectif de musiciens que l'ARFI. Mmh. Et puis, il y a certains musiciens que certains d'entre nous connaissent, côtoient parfois. Et on s'est dit, pourquoi pas, à un moment donné, s'imaginer un temps commun, quoi, où on va partager des moments de musique et... Voilà, c'est...
Quel type d'affinité avez-vous entre ces deux collectifs, Coax et l'ARFI?
Je pense que là, par exemple, si ça va être des rencontres essentiellement improvisées. Et c'est, je pense, le goût de un peu de l'aventure, de l'improvisation, de l'expérimentation qui nous relie entre ces deux collectifs. C'est des musiciens où, qui sont, je pense, d'une certaine façon, qu'ils le sachent ou pas, des héritiers, de, pas de moi, bien sûr, mais de beaucoup de musiciens, qui, notamment ceux qui faisaient partie de l'ARFI au départ. Quoi.
Mm-hmm. Alors, comment, des tuyaux, on a envie de tuyaux, là, on a envie de savoir, comment va s'organiser la soirée demain soir?
Alors, demain soir, il va y avoir, c'est une soirée, une longue soirée, oui. qui va commencer à 19h, je crois, ou 18h.
Oh, 18h, j'ai vu 17h, moi.
Alors ça, c'est l'ouverture des portes du théâtre, mais ça doit être 18h, effectivement, et qui va finir probablement très tard, et où vont se succéder, en fait, notamment plein de petites formes, c'est-à-dire plein de petites rencontres, c'est-à-dire pas être tout le temps perdu dans la masse, effectivement, mais de pouvoir écouter dans la rencontre des deux collectifs, ben, souvent il y aura des duos ou trios, pas plus, et qui vont voilà, dans des temps qu'on va essayer de maîtriser, c'est-à-dire pour pas que ça soit non plus indigeste. Mais voilà, et puis ça va successivement s'alterner avec des formes un peu plus importantes, des groupes... où il y aura 8, 9 musiciens, et jusqu'à certains moments où on sera tous réunis. Donc c'est le choix d'avoir des matériaux et des écoutes variées par le nombre et par les timbres pour faire un voyage dans des propos improvisés qui soient variés. Quoi.
Je crois avoir vu sur les réseaux sociaux que ça se terminerait plus ou moins par Epidictate.
Oui.
On a le droit de dire ça?
Ouais.
Ouais. Et le parce que Epidictate, ils sont venus. Oh là là, c'est ils sont venus ici. Hein, et ils nous parlaient de cette forme monumento. Comment ça s'appelle?
Je peux pas t'aider.
Ouais, tu peux pas m'aider. Avec beaucoup de musiciens amateurs à l'époque. Ouais. D'accord. Et il me semble que ça va se terminer par ça, non?
Eh ben, je reste un peu moi aussi. Je crois que oui.
Ah, il me semble bien. Bon, je propose d'écouter un peu de musique parce qu'on parle beaucoup là. La Marmite Infernale et le Chœur Spirito vont nous parler des Pleutériens. On parle après de ça. On a déjà parlé ici sur Radio Libertaire des Pleutériens avec notre ami Charles Penquin.
Loin de son coin.
sa terre. Oublie tout, c'est du bien.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. L'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques bizarres, insensées, inouïes. Et puis alors ça, les plutariens de la Marmite Infernale, c'est assez particulier. Donc je disais qu'on en a parlé avec Charles Penquin, Olivier, mais qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour vous lancer dans cette histoire d'un opéra, en fait ?
Ben, on se demande bien ce qui nous a motivé. Non, si c'était, je crois, en fait, l'envie, en fait, de se lancer dans un truc un peu comme ça, gigante. Enfin, on n'était vraiment pas légitime du tout à faire un opéra. On n'est pas des musiciens, je veux dire, qui appartenons, j'allais dire, au genre, quoi. On n'est ni des musiciens, ni un orchestre, je veux dire, qui peut prétendre, je veux dire, à telle création. Et puis, c'est assez fastidieux, c'est compliqué. Puis, on se retrouve aussi dans des difficultés aujourd'hui qui sont liées au fait qu'on n'appartient pas à un réseau de création, de production dans lequel on est reconnu. Enfin, il faut ça aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà, donc, on s'est lancé là-dedans parce qu'on en avait envie, tout bêtement, que... On avait envie d'être tous ensemble sur un truc un peu fou, un peu délirant comme ça, et ça a donné ce que ça a donné. Je crois que nous en tout cas assez contents parce que c'était une longue aventure et pas facile, c'était une expérience incroyable. Ouais.
Alors tu parles de légitimité, moi j'aime bien parce que nous sommes pas très légitimes non plus pour faire des émissions de radio si on va par là. Ah ouais, non, absolument pas. Mais alors pour autant quand même quelle idée quand même de demander à Charles Plenkin, il n'est pas très connu pour être un librettiste.
Et non, pas du tout. Bah, du coup ça tombait bien comme ça, de nous n'étant pas légitimes à faire un opéra, lui pas plus pour faire un livret, donc déjà, ça collait un peu.
Ah oui. Ouais.
Non, mais pas aussi Charles, on l'avait rencontré parce que moi, par ailleurs, on avait un trio qui s'appelle Bibi Conspire avec Patrick Charbonnier, qui était aussi un musicien harpe. Il en est parti il y a quelques années, mais voilà. Et on avait un duo qui s'appelle Les Conspirateurs du Hasard. Et on a invité Charles Plenkin et on a fait un truc qui s'appelait Bibi Conspire. Donc suite à ça, moi, quand on a parlé d'auteur, j'ai proposé effectivement Charles. Et puis il est venu faire plusieurs tentatives avec nous, notamment avec La Marmite. Et donc il existe, s'il y a des endroits bien nous accueillir. Et on l'a fait plusieurs fois, la possibilité de faire un spectacle, en tout cas un concert improvisé, avec Charles Plenkin qui dit c'est une performance, une sorte de performance, avec La Marmite et Charles Plenkin.
Et tout à fait.
Et
ouais.
Du coup, ça nous a décidé, convaincu de continuer l'aventure et de lui demander en fait d'écrire quelque chose pour nous, pour faire cet opéra. Quoi.
Mais alors effectivement, moi j'ai assisté au concert à Radio France. Si tu veux, avec effectivement Charles Plenkin, vous, La Marmite. Et, mais par contre, il n'y avait pas le cœur spirito, il n'y avait pas l'excellent Antoine Lang. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a un disque qui est sorti?
Il y a un disque qui est sorti au juin dernier, au moment de la création de l'opéra. Et le cœur spirito, donc ça a été une idée. Parce que, bon, on fait un opéra, on avait envie d'apporter à cet opéra la dimension vocale.
Ah oui.
Et donc, avec Charles, il nous a écrit une histoire où il y avait deux protagonistes, enfin, un couple qui faisait donc étaient les premiers rôles de son histoire. Et puis, Antoine Lang, qui était donc un des personnages, et Marina Churi, l'autre personnage principal. Et puis, on a eu envie, en fait, d'un chœur. Et comme on nous a souvent reproché d'être, et puis c'est pour ça qu'il y a eu le spectacle des hommes, d'être que des hommes dans La Marmite infernale,
oui,
on a invité un chœur, mais un chœur avec des voix exclusivement féminines. On s'est dit que c'était aussi une idée qui nous apportait une couleur particulière au niveau vocal, hein, puisque des timbres particuliers, et voilà, ça pouvait donner une tonalité particulière, et ça nous plaisait bien comme ça.
Ouais. Et on peut le voir la version, est-ce que ça se joue, ça tourne ou...
Alors, malheureusement, pour l'instant, on n'a rien de précis. On l'a joué donc au mois de juin dernier pour le festival des Nuits de Fourvière. On l'a joué au Théâtre de la Renaissance à Oullins, 3 soirs. On a eu plutôt des chouettes retours. Ouais. Et voilà, après, c'est des spectacles qui coûtent très très cher. Et comme je le disais, des productions de... les théâtres ont du mal à prendre des risques sur des gens qui ne sont pas référencés, attendus, je veux dire, sur ce genre de musique, quoi. Donc, on a un petit peu de mal, mais j'espère, on continue à y travailler, qu'on va trouver des gens qui vont prendre ce risque-là ou qui vont tenter l'aventure. Ça, je pense que ça vaut le coup que le public voit ça, quoi. Ça.
Ah bah oui. Moi, j'aimerais bien voir ça. Je propose d'écouter... Indolphilité. Out to punch.
Out to lunch.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres avec Olivier Bost qui nous parle de l'ARFI. Et un des projets de l'ARFI, c'est Indolphilité qu'on vient d'écouter. Est-ce que tu peux nous en parler tout simplement?
Oui, c'est alors donc moi je ne figure pas, enfin je ne fais pas partie de cette création là, mais un projet qui se réfère à un des plus grands disques de jazz, donc qui s'intitule Out to Lunch, un disque de Eric Dolphy, le saxophoniste et clarinettiste. Donc américain, et donc l'idée pour eux, c'était vraiment, ils ont reformé, enfin en tout cas au niveau instrumental, le même groupe. Ils ont repris cette musique en essayant, j'imagine leur personnalité, leur sensibilité, d'en donner une version, quoi. Eux, et c'est courageux de leur part, et crois que les premiers concerts qu'ils ont faits, ils ont été très très bien reçus, et ils ont eu des super retours, des belles critiques au festival notamment de jazz de Nevers. Et je crois qu'ils ont un avenir devant eux, j'espère que ce spectacle va être vu et entendu.
Ah oui, mais alors justement, est-ce que c'est fidèle aux compositions de Eric Dolphy?
Je crois qu'il y a forcément une part de fidélité, parce que ne serait-ce qu'en choisissant d'avoir parfaitement le même instrumentarium que le disque d'origine, il y a quelque chose qui se veut justement, où on ne se cache pas derrière forcément un autre instrumentarium, il revisite d'une façon plus... je dirais peut-être plus... Comment dire justement avec leurs propos et individuels et leur créativité propre à chacun. C'est pas à la clarinette basse, c'est pas Eric Dolphy, c'est Clément Gibert. Mais ça reste. Je pense, pour eux, ils revisitent, ils réinterprètent, ils redonnent vie à cette musique à leur façon, quoi.
Oui, voilà. Ma question, c'était, est-ce qu'ils reprennent les thèmes, si tu veux, ou est-ce qu'ils s'en inspirent juste?
Alors oui, je crois que vraiment, ils ont repris les thèmes, ils ont repiqué, on dit, toute la musique. Mais après, je crois qu'ils se sont appropriés, c'est-à-dire... Ils se sont arrangés de certaines choses, mais parce que ça leur correspondait mieux, probablement. Et puis, je crois qu'il y a quelques petites façons où ils ont comme réécrit ou écrit des choses à la manière d'eux, ou il y a eu une façon assez délicate de rendre hommage, je crois, à cette musique, tout en étant créatif aussi par rapport à cet hommage, quoi.
Alors, ouais. Et une des activités de l'ARFI, c'est ce qu'on appelle dans les milieux la pluridisciplinarité, et notamment les ciné-concerts, tout simplement. Avez-vous des idées particulières concernant cette forme, parfois maltraitée, d'aucuns se contentent d'improviser devant des films des années 30 parce qu'il n'y a pas de... parce qu'ils sont muets et puis qu'il n'y a plus les droits, surtout. Et est-ce que vous avez d'autres idées que ça? Je pense qu'il y en a des idées à avoir.
Je pense que chaque ciné-concert, à chaque nouvelle création, je crois que cette question, elle se pose. Évidemment, au départ, je crois qu'il y a eu cette idée de revenir à ce spectacle qu'on a eu au début du siècle, c'est-à-dire d'un orchestre physiquement présent qui accompagne des images. Là, c'était l'idée, c'était quand même de donner une interprétation musicale, mais aussi, je ne sais pas, il y a une rencontre avec le cinéaste, avec les images, avec ce que ça raconte. Et puis, il y a une rencontre aussi avec... nous, on est une sorte d'intermédiaire qui fait spectacle, je veux dire, justement, avec le public. Et ça, c'est le rapport du son et de l'image, c'est quelque chose qui peut se réfléchir de plein de façons différentes, ça peut s'aborder de plein de façons différentes. Et tout ça, bah, ça nous passionne, en fait.
Ouais.
Et bah, ça peut être à partir, je veux dire, de films d'animation, comme il y a eu avec Folimage et Bobine Melody, jusqu'à des grands classiques, comme on a fait Le Bonheur de Medvedkin, ce film surréaliste russe, à des Buster Keaton, ou Georges Méliès, ça forcément, à chaque fois, ces histoires, c'est pas le même cinéma, ça raconte pas la même chose, et donc... La musique, le rapport à l'image, l'écriture, la composition, elle n'est jamais la même. Quoi. On ne peut pas penser la chose à chaque fois de la même façon. Ce n'est pas juste je fais une jolie musique sur des jolies images. Quoi. Ça ne peut pas être ça. Quoi.
Eh ben merci. Ouais, oui. Et alors, tu as vu dans ce que je me suis un peu renseigné sur le site de l'ARFI, excellent site hein, d'ailleurs, avec plein de renseignements sur tous les musiciens, tous les groupes, tout. Enfin, c'est d'une richesse infinie. Et j'ai vu que toi-même, tu avais fait un ciné-concert autour des courts-métrages de Jan Zwankmajer, oui. Qui est mon idole absolue. J'adore Jan Zwankmajer, c'est fou, quoi. Et est-ce que ça tourne encore? Est-ce qu'il y aura une opportunité?
Non, donc ça, c'est une création qu'on avait faite avec le duo Les Conspirateurs du Hasard, dont je parlais tout à l'heure, avec Patrick Charbonnier.
Ben oui.
Et où on avait... Effectivement, c'est Patrick qui m'avait fait découvrir ce cinéaste incroyable, tchécoslovaque, Jan Zwankmajer.
Ouais.
Et là, c'était encore tout autre chose. Et là-bas, par exemple, pour illustrer effectivement ce qu'on était en train de dire juste avant, c'est que ce cinéaste qui travaille avec beaucoup de matériaux de récupération, de bidouillage, de choses ficelées un peu comme ça, on a fait un dispositif musical qui était un petit peu pareil, quoi, avec des tourniquets de haut-parleurs, des choses improbables comme ça, qui fabriquaient de la musique aussi de manière un peu mécanique et où il y avait une sorte de féerie sonore comme ça, comme il peut y avoir dans le cinéma de Jan Zwankmajer.
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis absolument fan. Mais alors, parfois, un ciné-concert peut engendrer, chez les musiciens, chez vous, l'envie de poursuivre l'expérience. Et c'est le cas pour Les Incendiaires, je crois.
Ouais.
Tu peux nous parler de ça?
Des Incendiaires?
Ouais, parce qu'on va l'écouter juste après.
Alors, Les Incendiaires, oui, c'est un trio dont je fais partie. On est trois soufflants. Il y a Guillaume Grenard à la trompette, Éric Vagnon au saxophone baryton. Et moi-même au trombone, donc. Ça, alors, ce trio, il est né un petit peu... on avait été sollicité pour faire une image, un peu une sorte de symétrie, qui se voulait peut-être un peu... un clin d'œil aux nouveaux arrivants, puisqu'on est à peu près de la même génération, Éric Vagnon et Guillaume Grenard, et moi-même. Et on a été invité par Apollo, il s'agit là d'Alain Gibert, Jean Pauletin et notre ami trompettiste Jean-Luc Capozzo.
Bah oui.
Et donc, il nous avait invités à un moment donné sur scène à faire comme une espèce de musique miroir, quoi, ce trio qui est ancien et ce nouveau trio qui serait comme une espèce de résonance, de miroir, quoi, de jeune miroir, on va dire. Et puis après, ben, l'opportunité a fait qu'on s'est dit il y avait justement un ciné-concert qui s'offrait à nous. C'est-à-dire, on nous a fait comme une sorte de commande sur des courts-métrages de Georges Méliès.
Ah oui.
Et on s'est dit, ben, pourquoi pas garder ce trio-là et d'essayer de creuser et de voir justement... parce qu'on ne peut pas être Apollo et que ça ne nous intéressait pas de faire la même chose, mais justement de re-questionner peut-être cette formation et de faire ça à notre manière. Quoi. Mmh. Un peu comme ils reprennent Dolphine, ou à notre façon, on a repris ce trio-là et en lui donnant peut-être un angle musical propre.
Les Incendiaires, Voyage sur la Lune. Radio Liberté, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée aujourd'hui à l'ARFI avec Olivier Bost, un des membres de l'ARFI, l'association à la recherche d'un folklore imaginaire. Olivier, tu es guitariste et tromboniste, hein, c'est ça. Oui, oui. Et on vient d'écouter Les Incendiaires, une formation dans laquelle tu joues. Parmi les activités de l'ARFI, il y a le label. Voilà, Les Incendiaires, par exemple, c'est disponible chez L'Autre Distribution et les allumés du Jazz. Donc il y a un label avec des disques. Est-ce que tous les projets, c'est-à-dire toutes les créations, font-elles l'objet d'une sortie discographique? Ou, inversement, y a-t-il aussi des disques qui sortent sur le label qui ne sont pas, dont le line-up ne tourne pas? Quelle est votre idée par rapport au disque?
Si j'ai bien compris, pratiquement toutes les créations qui sont à l'ARFI font l'objet d'une réalisation discographique la plupart du temps. Je dirais que même les spectacles, on sort des DVD parfois parce que l'aspect visuel est aussi important que sonore, que l'aspect sonore, quoi. Ouais. Mais il arrive peut-être rarement, mais parfois que certains projets, parce que peut-être éphémères ou parce que le contexte joue beaucoup, on n'arrive pas à en faire un projet discographique, mais c'est quand même très rare. Quand même très rare.
Ah oui.
Après, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que il y a...
Ben inversement, est-ce qu'il y a des rencontres, par exemple, des projets, des idées musicales qui seraient spécifiquement discographiques et pas destinées à tourner, oui, voilà, à être un concert?
Alors ça aussi, c'est plutôt rare. Je dirais que malheureusement, ceux qui deviennent un objet discographique et qui tournent peu, c'est malgré eux, souvent. Ouais. À moins que j'oublie quelque chose, mais on a eu quelques disques, mais qui étaient des compilations. Mais je pense à un hommage qu'on avait fait à Maurice Merle.
Oui.
Mais c'est à peu près les seules choses. Alors là, dernièrement, il y a eu le coffret aussi du Workshop de Lyon, mais fait pas objet, je veux dire, à être un groupe qui veut derrière entamer une... Enfin, ça a été fait quand même lors d'une grande tournée, d'une tournée pour leur 50e anniversaire. Donc non, ça rentre pas. Non, mais a priori, je crois, à moins que j'oublie quelque chose, je me ferai engueuler par les copains si c'est le cas.
C'est pas grave.
Mais la majorité de ce qu'on réalise au niveau discographique, c'est voué à être montré sur scène, quoi.
Ouais, ouais. Et quelles sont justement les dernières sorties du label? J'ai vu un truc en relation avec Heiner Goebbels.
Oui.
C'est
un projet de Actual Remix,
ouais,
qui est un duo composé donc de Xavier Garcia et Guy Villers.
Ouais.
C'est deux musiciens de l'ARFI qui œuvrent et qui cherchent dans ces musiques, qui sont les musiques électroniques, mais aussi d'un côté Xavier, qui est lui quand même un musicien issu des musiques contemporaines, c'est un compositeur de musique électroacoustique, de musique électronique, de dispositifs divers et variés, il a une activité quand même assez importante de ce côté-là, et Guy, qui lui vient plutôt du free jazz, saxophoniste à l'ARFI, mais qui depuis pas mal d'années s'intéresse aux musiques électroniques, mais peut-être une frange un peu plus musique populaire, quoi, dans la musique électronique, hein, de certains DJ, etc. Et tous les deux, en fait, comme ils sont branchés par ces musiques-là, ils avaient envie de creuser, et ils ont donc différents projets. Et là, le dernier, c'est ils ont remixé la musique d'Heiner Goebbels. Il y a deux disques, un live avec l'ensemble moderne, puis un autre plutôt de remix de ces musiques-là.
Ouais.
Et voilà un propos très singulier qu'il y a dans le collectif, mais qui enrichit de par sa singularité aussi des questionnements esthétiques, musicaux qu'il peut y avoir. Et c'est un disque qui a sa place dans la,
bah oui, Oui. Alors, oui, bien sûr. Alors, tu sais que, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis passionné de l'arfi depuis bien des années. Bien des années, hein, on se fait vieux. Mmh. Hein. Mais pour autant, il conviendrait de parler des... Parce que c'est ça qui est formidable avec vous, c'est que c'est toujours en activité, très actif. On va le voir demain à Berthelot, à Montreuil, avec les copains de Coax. Mais il y a aussi des créations. Ça n'arrête pas, en fait. Hein. Y a des créations en 2020, notamment un projet auquel tu participes, c'est le Bouloulou. Est-ce que Bouloulou, je dis bien ouais. Bouloulou. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Ouais. Alors ça, c'est... Là aussi, c'est... Ça part d'une idée qu'on a eue, qui a été, à un moment donné, l'envie d'inviter des gens, mais plutôt que de les inviter sur des projets qu'on pouvait avoir, nous, au préalable... Eh ben, c'était pour une fois d'offrir des cartes blanches avec le collectif à certains musiciens ou musiciennes qu'on aimait bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'était demander à des gens d'imaginer avec les musiciens du collectif quelque chose, mais qui soit libre d'imaginer ce qu'ils veulent. Quoi. Ouais, En fait, notamment, le Bouloulou, donc ça, c'est un projet... où on a donc offert une carte blanche à Emmanuelle Sabi, clarinettiste et chanteuse, qui est passionnée de musique vénézuélienne, mais aussi de poésie, de littérature. Enfin, elle est passionnée de tout ce qui est de la culture vénézuélienne. Elle y est très souvent. Elle a eu beaucoup d'expérience avec forcément des musiciens traditionnels Avec nous, elle avait envie en fait de se confronter au fait que on imagine bien qu'on n'est pas des spécialistes de la musique vénézuélienne, mais justement le côté folklore imaginaire lui faisait on pouvait l'amener, elle, avec son travail qui était de recherche et de réappropriation de cette musique, et qu'on puisse nous l'amener à des endroits peut-être imprévisibles pour elle, quoi. Et donc voilà, c'est un répertoire qu'elle nous a donc fait découvrir, des musiques, il y a eu des écoutes. On a choisi chacun d'entre nous d'aborder ça différemment. Alors il y a des choses qui ont été écrites, proposées de manière diverse, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et donc il y a tout un répertoire de musique issue des musiques vénézuéliennes qu'on a réarrangé à notre sauce, nous, les musiciens qui ont été choisis en fait pour faire participer à ce projet. Donc il y a Jean-Paul Autain, saxophoniste, clarinettiste, flûtiste. Il y a Guillaume Grenard, trompette et euphonium. Et puis il y a Yoko
Oshima. Ah oui,
batteuse. Donc qu'on a invité et c'est vraiment super.
Super batteuse.
Batteuse qui nous a rejoint donc pour inventer cette musique.
On écoute un court extrait, hein, vrai, ça va pas être très long, de Equilibrio de Bouboulou.
Thank you.
Voilà, c'était un court extrait de Equilibrio de Bouloulou. On terminera l'émission, Olivier, avec l'effet vapeur et la création Ring. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire quelques mots? Il reste un peu de temps.
Bon, bah, j'ai été missionné là aussi parce que je ne fais pas partie de cette création.
Ouais.
Mais les copains là, m'ont donné deux, trois trucs, deux, trois tuyaux, parce que c'est une création qui n'a pas encore eu lieu. Donc, je ne l'ai pas vue, ils sont en plein travail. Donc, ils m'ont transmis un peu l'essentiel, enfin, ce qui leur paraît important à eux d'annoncer. Et donc, ils parlent de multiples mises en scène d'objets, de sons et d'instruments, expérimentent, composent et improvisent une musique inédite, très collective, aux multiples facettes.
Ah oui.
Si ça ne fait pas envie, ça.
Ah oui, mais carrément. Mais alors, est-ce qu'il y a une mise en scène? Est-ce qu'il y a un genre de ring, quoi, tout simplement?
Alors, je crois qu'il en était question, mais je ne sais pas s'ils ont gardé l'idée ou pas. Mais je pense qu'il y aura une surprise, probablement. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, oui, comme ils le disent, une mise en scène pour que la musique, le spectacle de la musique soit singulier,
ouais. Ouais, ouais. On écoutera pour terminer l'émission. Mais alors, est-ce que tu as des idées de création? Ouais, je dis ça plutôt que de dire projet parfois. Je dis idée de création. C'est... Bon, alors, est-ce qu'il y a des projets ou des idées de création qu'on n'a pas évoquées dans l'émission et dont tu souhaiterais nous dire quelques mots? Parce que, effectivement, si on va sur le site de l'ARFI, c'est blindé de.
Ouais, j'avais envie de dire, de toute façon, oui, on a toujours plein de projets en tête et plein de choses à venir. Souvent, on en a trop, même. Donc, non, je crois que j'ai parlé de ce qui était essentiel à parler aujourd'hui pour ce qui, est, ouais. ce qui se passe dans l'ARFI, mais. C'est sûr que même parfois on se dit, nous, entre nous, musiciens, que même des fois, on en a même un peu trop. Et donc, mais aujourd'hui, c'est ce dont on vient de parler. Et demain, il y en a encore plein de prévus, c'est sûr.
Bah oui. Et alors, donc, la date de concert, c'est demain. Hein, c'est au Théâtre Berthelot, c'est ça?
Oui.
Avec cette rencontre avec Coax, Coarfix. C'est à 17h, je crois.
Ouverture des portes du théâtre à 17h.
Oui, voilà. Ouais. Eh ben, on sera là demain. Merci beaucoup, Olivier.
Ben, merci à toi.
D'être venu nous voir. Et très, très, très content d'avoir pu évoquer l'ARFI dans votre émission. Une référence pour nous. Merci beaucoup.
Merci.
On se quitte avec l'effet vapeur, donc les 12 cordes du destin, c'est le nom du morceau. La semaine prochaine, on reçoit le compositeur et batteur Stéphane Charlet qui nous parlera du groupe Ozma. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut. Oh,